signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. On n'en finit jamais avec Franz Kafka. Après la publication des œuvres complètes en Pléiade en 2018, après la première édition intégrale du journal publiée en 2020 par les éditions Nous, voici que sort ce printemps la traduction française de Kafka, le premier volume des trois volumes de la première biographie de Kafka, œuvre elle-même monumentale, signée de l'éditeur allemand Rainer Stach. C'est un livre, je pense que personne n'a jamais lu un livre de cette ampleur sur Kafka, puisqu'il y a absolument tout. On redécouvre Kafka, on redécouvre sa vie, on redécouvre son œuvre, et c'est ce livre dont on va parler aujourd'hui, et de Kafka dont on va parler aussi, et de la gêne aussi que continue de susciter Kafka dès qu'on l'évoque apparemment, puisque le 31 mai dernier la grande librairie a innové en faisant dézinguer Kafka par ses invités. La métamorphose, c'est un texte que je ne supporte pas, c'est malaisant, on nous prend pour des débiles, a dit notamment l'un des invités, et on va essayer de réfléchir aussi en quoi Kafka reste malaisant à notre époque. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Yannick Hennel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes journaliste, vous avez écrit notamment Cercle en 2007, Prix Décembre et Prix Roger Nimier en 2008. Vous avez, votre dernier livre, c'est Le Trésorier Payeur, et vous avez publié la semaine dernière dans Charlie Hebdo un lynchage à la télé sur cette émission de La Grande Librairie. Régis Quatre-Sous, bonjour.
Bonjour,
vous êtes traducteur, vous enseignez la traduction littéraire à l'Institut des traducteurs, d'interprètes et des relations internationales de l'Université de Strasbourg, et vous êtes le traducteur de cette biographie Kafka volume 1, Le temps des décisions, qui sort au Cherche Midi. Jean-Pierre Lefebvre, bonjour. Vous êtes traducteur aussi, professeur émérite de littérature allemande à l'École normale supérieure. Vous avez traduit Hölderlin, Paul Celan, Marx, Hegel, Freud, et vous êtes le coordinateur de la traduction des œuvres complètes journaux et de chez Gallimard, de Kafka. Et enfin, Rudy Lehrmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, documentariste, vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont le 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, autobiographie d'un immeuble. Vous avez publié chez Christian Bourgois la direction de l'absent. Vous avez plus récemment fait le procès Prague 52, qui a été diffusé sur Arte. Et vous avez non seulement interviewé longuement Rainer Stach pour la revue K, et aussi réalisé pour France Culture un podcast dont on va écouter certains extraits, Felice Milena Dora Otla, Quatre femmes avec Kafka. Alors, deux mots sur l'actualité. Yannick Hennel, cette émission de La Grande Librairie où on a entendu des choses mi-drôles, mi-désespérantes. Hein. Il y a chez Kafka une haine plus un du boulot. C'était un des jugements littéraires. Et puis surtout, Philippe Besson qui a expliqué que on comprend la métaphore de la métamorphose dès la ligne 2. Faire 200 pages là-dessus, on nous prend pour des débiles. C'est un texte que je ne supporte pas. J'ai beaucoup de mal. Je trouve ça, en fait, malaisant tout le temps. Je me sens très mal avec ce type qui se débat en cafard où il n'y a jamais aucun espoir. Je suis consterné par ça. Vous parlez de lynchage.
Oui, je parle de lynchage parce que je crois que quand l'humour rate, parce que ça se voulait drôle, je suppose, ouais. Quand l'humour rate à ce point de désinhibition, on appelle ça un lapsus. Et donc, c'est vraiment le symptôme pour moi d'un épaississement de la sensibilité, d'une part, mais d'autre part aussi d'une haine inconsciente du style, comme disait Flaubert. Et un lynchage parce qu'au fond, ce qu'on semblait stigmatiser chez Kafka à travers la métamorphose, c'était la souffrance, la dépression, le fait d'être malade. Il y avait cette manière de nous enjoindre au développement personnel, à la bonne santé, avec cette manière très enfantine, et encore les enfants sont pas si vulgaires, de dire oui c'est déprimant, c'est triste, ça m'ennuie parce que ça parle de choses désagréables. Lynchage parce que il s'agit précisément, et c'est ça ce qui est vertigineux de ce que raconte la métamorphose. Mmh. Si Gregor Samsa, le personnage, se métamorphose en cafard, encore que le nom soit pas, c'est peut-être pas un cafard.
Oui, on va en parler.
C'est parce que, à force de se sacrifier pour sa famille, il est écrasé par elle. Et là, dans ce moment de télévision, on entendait des gens, des écrivains, qui en remettaient une couche en écrasant encore plus, ce personnage. Il y a une phrase extraordinaire de Nabokov dans son cours de littérature, je l'ai apportée, je vais la lire. Il dit, la famille Samsa, autour de l'insecte fantastique, n'est rien d'autre que la médiocrité entourant le génie. Et je pense qu'il est bon de rire des classiques, je pense que c'est bien de désacraliser les grands noms de la littérature, mais ce caractère impitoyable-là conduit à quelque chose de tranquillement criminel, en fait. Mmh, mmh.
Rainer Stark, dans sa biographie, semble répondre par avance d'ailleurs à l'émission de la Grande Librairie, ou dans l'introduction qui est très belle. Il pose un certain nombre de questions. Il dit, une vie mesurée selon les normes hédonistes des sociétés occidentales du XXIe siècle, l'existence physique de Kafka offre un bilan proprement accablant. Tout paraît se décliner sous le signe de l'échec, dans un nombre de domaines manifestes, y compris d'ailleurs l'écriture. Et il dit ce paradoxe, cette énigme, si un individu socialement insignifiant est en mesure de provoquer dans l'histoire de la culture mondiale une onde de choc dont l'écho continue de retentir de nos jours, il semble que l'on doive considérer vie et œuvre comme deux univers inconciliables. Ruth Zilberman, sur cette incapacité aujourd'hui à comprendre une vie qui n'entre pas dans les cadres, quoi.
Oui, c'est ça. Enfin, Rainer Starr, me semble-t-il, dans son introduction, il y a la possibilité d'écrire une biographie selon une modalité horizontale, finalement. C'est-à-dire la manière dont une vie se déploie dans son temps, se déploie dans les lieux, etc. Et donc, il dit, Kafka a très peu voyagé, ou il l'a fait de façon toujours extrêmement contrainte, puisqu'il avait, comme vous le savez, des contraintes de travail très fortes. Il a eu, quelques relations amoureuses qu'on peut compter sur les doigts d'une main, même si elles sont quand même un tout petit peu plus nombreuses que ce qu'on croit, et que ça rompt quand même avec l'image d'asset qu'on a d'eux. Bref, ce déploiement horizontal manque à Kafka, et il dit, et finalement c'est tout ce beau travail qu'il fait, la seule possibilité c'est cette sorte de recherche verticale, d'aller dans une sorte de la profondeur, cette fameuse profondeur dont Kafka parle souvent, cette cave très très profonde, cet esprit, et c'est ça qui va tenter de faire, même si évidemment, et je pense que Régis Quatresous, qui a traduit cette biographie, nous le dira, évidemment que Kafka était aussi en lien avec le monde, avec donc cet horizon du monde, que ce soit l'horizon politique, que ce soit l'horizon de l'histoire, que ce soit l'horizon du judaïsme et du sionisme. Et donc c'est tout ça en fait que cette biographie nous révèle et nous présente comme une éruption d'un Kafka en couleur, et bien loin de ce triste employé que Philippe Besson, qu'on nous a servi sur le plateau de la Grande Librairie.
Oui, Régis Quatresous, oui, effectivement, Rainer Stark a travaillé pendant 18 ans à sa biographie, ce qui est énorme. C'était au départ un mathématicien, c'est pas spécialement un chercheur ni un historien. Il s'est pris de passion pour Kafka. Le premier volume est sorti en 2002, en Allemagne, le dernier en 2014. Les publications ont été saluées notamment par Imre Kertész. Une des raisons pour lesquelles Imre Kertész l'a salué, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit émerger, le Kafka qu'on voit émerger dans ce livre, c'est un Kafka profondément ancré dans l'histoire de l'Europe, de son époque, et à travers lui, on voit tout le continent petit à petit exploser en quelque sorte. On voit toutes les contradictions apparaître, des contradictions que lui-même saisit à la fois dans sa vie et dans son œuvre, et on voit le continent qui va exploser avec lui en quelque sorte.
Exactement, exactement, et j'aime bien quand je parle de cette biographie pour la présenter à des non lecteurs de Kafka, dire que c'est un livre qui va bien au-delà de la figure et de l'œuvre de Kafka. Et Rainer Stahl lui-même, quand il quand on lui demande dans des interviews, par exemple, comment il a fait pour travailler sans se lasser pendant 20 ans sur le même individu, il répond qu'il n'a pas travaillé pendant 20 ans sur un individu, il a travaillé pendant 20 ans sur une époque, sur ses dimensions culturelles, sociales, économiques, guerrières, érotiques, sexuelles. Donc c'est une exploration, c'est une fresque en fait, c'est une énorme fresque dont Kafka est le personnage entre guillemets, parce qu'il y a une quelque chose dans l'écriture de Rainer Starr qui relève du romanesque, ça a été pas mal souligné par les critiques, mais rien n'est inventé quoi, évidemment, ça, c'est pour ça que je mets les personnages entre guillemets, on n'est pas du tout dans une fictionnalisation, mais c'est effectivement un ouvrage de très grande ampleur et qui nous dépeint tout le contexte dans lequel Kafka a vécu et créé.
Oui, et Rainer Starr dit qu'il s'agit, oui effectivement, enfin, il y a toute une réflexion qu'il fait lui-même dans le livre sur la question de la biographie, sur la question du langage. C'est un travail d'écrivain et c'est un travail sur la langue aussi. Il dit au début que Kafka ne laisse rien passer, ni grande phrase, ni impureté sémantique, ni faiblesse dans la métaphore. Sa langue ne déborde pas, elle ne sort jamais de son lit, elle reste maîtrisée, tel un scalpel qui fend la pierre. Il ne néglige rien. Il n'oublie rien. Jean-Pierre Lefebvre, vous avez lu évidemment la biographie et vous avez coordonné la traduction de Kafka chez Gallimard.
Oui, j'ai d'abord commencé par traduire tous les romans, toutes les œuvres de fiction, et puis effectivement pour le journal et pour la correspondance, on s'est partagé le travail. Bon, et ça aboutit à un travail collectif. Puisque là, on évoque, bon, je ne vais pas revenir sur les métamorphoses des écrivains dans leur rapport à Kafka et ce qu'ils deviennent soudain. Bon, on peut interroger ce besoin comme un symptôme de quelque chose. Et avant d'en parler et de enquêter sur ce symptôme, donc c'est un symptôme de notre temps. Et précisément, c'est justement le genre de choses que Kafka avait un talent tout particulier à mettre en évidence, c'est-à-dire à identifier les symptômes de notre temps. Pas toujours habillés dans des termes qui permettent de les identifier tout de suite, mais qui font un effet ensuite, disons, dans la conscience des gens, ça reste. Cet animal n'est pas un animal, et c'est un mot, sous la plume de Kafka. Si on lit bien le texte, on se rend compte qu'il ne s'agit en aucun cas d'un insecte, ça ne correspond entomologiquement pas à un insecte, c'est un cloporte, c'est-à-dire un crustacé, et qui vit dans les caves, et qui a donné lieu d'ailleurs à une métaphore populaire, cloporte. Moins en allemand qu'en français, mais bon, c'est comme ça. Mais le terme qui est employé, c'est un terme, Ungeziefer, c'est un terme très général, ça désigne toute espèce de bestiole qu'on ne pourrait pas utiliser pour faire un sacrifice pour les dieux.
C'est un animal impur, en fait.
C'est un animal impur.
C'est quelque chose qu'on balaye avec
lequel... Et touchant à ça, évidemment, il touche à énormément de choses, mais c'était le mot qu'utilisait son père pour désigner tous les gens qu'il fréquentait, et notamment ces comédiens venus de l'Est.
De l'Est, les Juifs de...
Du théâtre yiddish, les Juifs de Lemberg, qui étaient venus. Voilà. Mais donc, pour ce qui est de cette remarque que vous faites et qui est tout à fait juste sur sa langue, hein, que Starr évidemment a repéré, Kafka est quelqu'un, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu après avoir passé tant d'années à me demander quelle était cette langue dont certains avaient dit qu'elle était pauvre, que c'était une langue administrative, enfin qui était déjà un premier pas dans la calomnie dont on parle. Je pense avoir identifié chez Kafka une angoisse précoce à l'égard de la parole, allemande, qui était une parole qu'il n'entendait pas à la maison, ou qu'il entendait de manière fautive. Quand on a des lettres de la mère, par exemple, on sait que même sa sœur a dû prendre des cours d'allemand, Otla. C'était quelque chose de problématique. Il était le détenteur dans la famille de la meilleure compétence pour l'allemand. Ses deux autres sœurs parlaient tchèque avec leur mari. Euh, et, Et donc, cette angoisse précoce primaire chez lui a généré une sorte de prudence et aussi de regard sur la langue littéraire des autres. C'est-à-dire qu'il s'est méfié très tôt du discours psychologique, de la métaphore, des ornements, etc. Donc la différence d'écriture est colossale quand on le compare à son contemporain Zweig, par exemple. Qui est quelqu'un qui écrit de manière beaucoup plus ampoulée et certainement problématique d'ailleurs pour les traducteurs. Mmh. Donc il y a cette pureté virtuellement transcendantale de la langue de Kafka qui vient capturer avec la langue la plus efficace qui est celle de l'émigré qui a bien appris la langue.
Alors, le livre prend Kafka à 27 ans. Le premier volume ne commence pas avec sa naissance, il commence quand il a 27 ans. En 2010, l'année où commencent les journaux qui...
En 1910, n'est-ce pas ?
En 1910, voilà, j'étais sûr de le faire, je l'ai fait. En 1910, c'est pas en 2010, c'est-à-dire l'année où commencent des journaux de Kafka qui nous sont parvenus. Écrit Rainer Starr, et c'est aussi le moment où Kafka est pris à l'aube de la crise qui va déboucher sur sa première grande période créatrice, c'est-à-dire le moment où il va écrire Le Verdict, Le Procès, et entre les deux donc, La Métamorphose. C'est aussi le moment de la correspondance de loin la plus intense, celle qu'il va entretenir avec Felice Bauer. Je voudrais qu'on écoute tout de suite un extrait de votre podcast, Ruth Zilbermann, d'un extrait du journal de Kafka.
Écrire signifie que l'on se livre sans mesure. C'est pour cette raison que l'on ne peut jamais être assez seul quand on écrit. C'est pour cette raison qu'il ne peut jamais y avoir assez de silence autour de soi quand on écrit. La nuit elle-même n'est pas assez nocturne. J'ai déjà souvent pensé que pour moi, la meilleure manière de vivre serait de m'enfermer avec une lampe et quoi écrire au plus profond d'une vaste cave, dans la pièce la plus cachée.
Voilà. C'est Yannick Hanel, ce passage, c'est la recherche de l'écriture. Une des choses que nous montre la biographie, c'est que c'est pas juste une tentative de recueillement romantique. Il y a des raisons très précises pour lesquelles Kafka cherche la solitude. C'est qu'il vit dans une maison où tout le monde vit les uns sur les autres. Toute la famille, il y a absolument aucune intimité possible en réalité.
Effectivement, il appelait ça le quartier général du bruit.
Oui.
Il vivait chez ses parents, avec ses sœurs. Et ce qu'il y a de prodigieux, vraiment proprement prodigieux dans ce livre, c'est que c'est une grande enquête sur quelque chose qui, normalement, devrait être sans témoin, le moment où on est seul dans la nuit face à l'écriture. Or, Rainer Starr nous raconte cette aventure passionnée, jour après jour, parfois minute après minute, c'est stupéfiant, sans rien inventer, de ce qu'il en est du rapport de Kafka avec la contrainte paternelle, avec les injonctions de la loi, avec une usine, on va peut-être en parler, dont il, oui, qu'il doit gérer, et aussi, bon, alors évidemment, son travail aux assurances, mais sa quête passionnée de transformer l'exclusion dont il se sent l'objet en une conquête étrange, féerique, parce qu'il y a quelque chose de féerique aussi. Il y a quelque chose de très angoissant dans son rapport à l'écriture, mais quelque chose de féerique. On a des nuits entières d'écriture et on suit ça de manière haletante. Effectivement, le moment où ça va devenir une abondance, en fait, on voit toujours Kafka du point de vue de la restriction, de l'angoisse, de la pauvreté. Or, on découvre que c'est quelqu'un qui vit sa vie sur plusieurs plans passionnés en même temps.
Il vit dans cette maison, il vit dans une petite chambre non chauffée qui se trouve entre le salon et la chambre des parents. Donc il entend toute la famille constamment, tout le monde se lève à 6 heures du matin. Bref, trouver un moment pour écrire est pratiquement impossible. Et dès qu'il sort de la maison, il va effectivement au travail, où il s'occupe des accidents du travail d'ailleurs. Détail que j'ignorais, moi. Tout le monde savait qu'il travaillait dans une compagnie d'assurance, mais on ne savait pas qu'il travaillait dans une compagnie spécialisée dans les accidents du travail. Et ça va jouer un certain rôle au moment de la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Il écrit, je mène dans ma famille parmi les gens les meilleurs et les plus aimants qui soient, une vie plus étrangère que celle d'un étranger. L'incident qui va cristalliser le conflit avec sa famille. C'est effectivement cette histoire de l'usine d'amiante. L'une de ses sœurs doit épouser un homme et la dot doit servir à financer une usine. Mais comme on n'a pas suffisamment confiance dans le futur gendre, c'est Kafka qui va devoir se faire l'associé de l'usine pour gérer lui-même les fonds, pour apporter les fonds. Et il se trouve qu'il va se désintéresser du problème très vite et ne pas se rendre à l'usine du tout. C'est-à-dire qu'il y a une, c'est à partir de là que le conflit va se cristalliser avec toute sa famille, Zilberman.
Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est surtout, en fait, lui avait poussé, hein, me semble-t-il, enfin, Jean-Pierre ou Régis, mais je pense qu'il avait poussé pour justement pour qu'il y ait cette, que cette usine puisse être prise en charge par le par son futur beau-frère. Et en effet, une fois qu'elle est mise sur pied, il a pas très envie d'y aller. Je pense que surtout, ce qui est important, enfin, peut-être, est-ce que c'est si important d'ailleurs, mais c'est que dans le conflit, en effet, qu'il va l'opposer avec ses parents, sa sœur va prendre un petit peu sa sœur dont il est si proche, sa petite sœur. Au-delà, va un petit peu prendre pour une fois, c'est une fois n'est pas coutume, le parti des parents contre Franz.
Oui, je veux dire, à propos de cette usine,
Jean-Pierre Lefebvre,
cette usine, c'est une fabrique.
Oui, c'est une fabrique
d'amiante. C'est d'ailleurs un problème que de traduire fabrique en français, parce que on hésite entre usine et fabrique, ça génère des imaginaires tout à fait différents. Et cette fabrique, elle est installée, c'est deux, trois pièces avec des outils comme ceux que Marx décrit à la fin du 19e siècle dans les usines anglaises, avec des roulements qui amènent l'énergie, etc. Enfin, c'est quelque chose de très archaïque, complètement, comment dire, la pièce complètement saturée de poussière, d'amiante, etc. Et j'ai toujours considéré, dès que j'ai lu les choses, que c'était là qu'il avait contracté dans cette fabrique qui a fini par être dissoute, mais elle a mis le temps. C'est là qu'il avait contracté vraisemblablement une asbestose qui était devenue le foyer primitif de la tuberculose, c'est-à-dire les éclosions de tuberculose. C'était une invention relativement récente, l'amiante, et il y a eu dans le monde industriel, il y a eu une espèce d'enthousiasme pour ce produit, mais ça a entraîné aussi énormément d'imprudence, et Kafka a été une victime de cette période-là. Et bon, c'était quelque chose d'indémontrable. C'était des débuts aussi des rayons X et tout ça. On voyait pas grand-chose. Mais à mon sens, il avait une espèce de prémonition que cette usine le tuerait physiquement aussi.
Mmh. Il dit,
elle figurait évidemment tellement l'autorité paternelle, l'injonction, et ça lui prenait du temps. Il était obligé d'aller, c'était dans la banlieue, à Žižkov, c'était pas à Prague. Bon. Prague même, c'était pas au centre. Donc, il y avait tout pour le tuer dans cette
fabrique. Il l'écrit littéralement, d'ailleurs. Il dit, cette usine, c'est l'anéantissement total de mon existence. Et Régis Quatre-Sous, ce que Rainer Starr fait très bien valoir, c'est que tout arrive pratiquement en même temps. C'est-à-dire que le conflit autour de la fabrique d'amiante, le sentiment d'aliénation vis-à-vis de sa famille, la rencontre avec le théâtre juif d'Europe de l'Est, qui va rencontrer donc cette troupe de théâtre qui arrive à Prague, la compagnie juive polonaise de Lemberg qui va se mettre à jouer au Café Savoy, tout arrive en même temps, et Kafka fait rencontrer à son père les comédiens, en particulier le Žižkov Louis qui dirige la compagnie, et ça va très mal se passer. Et c'est le talent de Rainer Starr que de faire jouer cette espèce de ressort dramatique où il y a une espèce de crise il y a plusieurs éléments convergent vers une seule crise.
Exactement, et cette crise, c'est Felice Bauer qui va la déclencher. D'ailleurs, ouais. J'aimerais revenir sur l'extrait que vous avez fait lire, enfin que vous avez, disons, passé. En fait, c'est pas un extrait du journal, je crois que vous avez dit que c'est un extrait du journal, c'est un extrait d'une lettre à Felice Bauer.
Oui, bah autant pour moi. Ouais.
Et ouais, mais je cite pas ça pour vous, je dis pas ça pour vous corriger, simplement ce que je veux dire, c'est que ce qui est extrêmement passionnant aussi dans la biographie de Rainer Starr, c'est que il va aussi au-delà de ce que Kafka lui-même dit. Il ne prend pas Kafka au pied de la lettre, et quand il cite ce grand fantasme de la cave dans laquelle Kafka aimerait écrire jour et nuit sans s'arrêter, en fait, il faut bien comprendre que c'est une lettre qu'il écrit à la femme qu'il envisage d'épouser, et c'est une manière pour lui, en fait, de monter un peu en épingle, si je puis dire, le conflit entre la littérature et le mariage qui déjà s'amorce dans cette lettre qui date de la fin de l'année 1912, c'est-à-dire quelques mois seulement après la rencontre avec Felice Bauer. Mais vous avez entièrement raison, enfin, comme le dit Rainer Starr, il y a tout un matériau assez explosif qui s'entasse pendant cette période, donc tous les éléments que vous avez cités, la fabrique d'amiante, la rencontre avec... avec les comédiens juifs, un certain nombre d'émois affectifs aussi, qui vont laisser Kafka relativement frustré. Et puis donc en septembre 1912 survient Felice Bauer qui elle joue un peu le rôle de l'étincelle dans l'entrepôt de poudre en quelque sorte, il va déclencher le processus créatif.
Il faut expliquer pourquoi il y a ce conflit entre le mariage et l'écriture, parce que il y a quelque chose dans Felice Bauer fait qu'il pourrait qu'en quelque sorte Kafka est quelqu'un qui est à la recherche d'une forme d'émancipation de sa famille, émancipation du travail, il veut se consacrer à la littérature. Et Felice Bauer se trouve plus ou moins dans la même situation. Il pourrait se libérer l'un par l'autre, mais en même temps, le mariage implique le retour des familles. Et donc, l'impossibilité d'échapper, l'impossibilité de trouver une forme d'individualité. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre interview de Rainer Starr, Rudi Silbermann, dans le podcast de France Culture, qui parle de ça.
Sie hatten aber wirklich nur einige wenige Tage, wo sie allein gemeinsam waren.
Ils se voyaient rarement seuls tous les deux. Le plus souvent, leur famille était présente. Voilà le problème.
Felice Bauer gehörte sozusagen zu einer Zwischengeneration.
Felice Bauer appartenait à ce qu'on peut appeler une génération intermédiaire. Elle n'était pas encore aussi émancipée que l'aurait voulu Kafka. Elle était émancipée dans sa vie professionnelle, mais elle se laissait toujours commander par sa mère. Sa mère lui donnait des ordres, lui disait ce qu'elle devait faire le dimanche. Fais donc un gâteau pour une fois, tu ne peux pas aller sans arrêt au spectacle ou au cinéma. Il y avait un clan familial comme chez les Kafka. C'est-à-dire par exemple que si Felice avait un petit ami, ou si elle voulait se marier, non seulement les parents avaient leur mot à dire, mais aussi une vingtaine d'oncles et tantes, et ses frères et sœurs aussi. Et un autre exemple, elle était en permanence responsable de tous ses frères et sœurs. Quand un ou une de ses frères et sœurs était dans la difficulté, Felice devait lui venir en aide avec son argent à elle, parce que c'était elle qui gagnait beaucoup d'argent. Elle se sentait souvent dépassée par ses responsabilités, à un point tel parfois que la nuit dans son lit elle pleurait pendant une ou deux heures.
Voilà. Alors, ce qu'on voit très bien dans le livre, c'est que quand Kafka rencontre Felice Bauer le 16 mars 1912, la rencontre se fait sur une promesse commune d'un voyage en Palestine avec Max Brod, Felice Bauer et Kafka, dans l'atmosphère d'une redécouverte d'une forme de judéité qui échapperait à la fois à l'assimilation et à l'orthodoxie religieuse. Et ça va frapper Kafka, et c'est à partir de là qu'il va chercher à la revoir, qu'il va chercher à lui écrire surtout. Et cette relation va être constamment parasitée, on a l'impression quand on lit le livre, par ce poids, et quand on écoute Rainer Starr aussi, par ce poids des familles, par ce poids social dont il n'arrive pas à se libérer. Jean-Pierre Lefebvre, vous parlez à un moment donné dans votre introduction au volume de Gallimard, vous parlez d'une la recherche d'une éthique de la libération dans l'œuvre de Kafka, quelque part vous écrivez quelque part entre Chagall et Gustav Landauer. On a l'impression qu'il y a ça qui est en filigrane, qu'il n'arrive pas à trouver en fait, ni Felice Bauer ni lui n'arrive vraiment à trouver cette libération qu'ils cherchent tous les deux l'un par l'autre.
Mais oui, mais pour une raison qui est universelle, c'est que la libération, c'est difficile. C'est difficile. Et alors, la difficulté prend des visages qui, parfois, d'ailleurs, ne ressemblent pas à des difficultés, mais qui en sont à terme dans l'histoire des individus. Menaçante. Enfin, donc... Il y a chez lui un souci éthique, j'emploie le terme de toute façon générale, y compris professionnellement, et quand il écrit des rapports à la compagnie d'assurance. Je signale au passage d'ailleurs que c'est uniquement dans ces textes écrits pour la compagnie d'assurance que Kafka prend la plume pour décrire la nature. Mmh. Parce que la nature, c'est comme dit Paul Celan, Adorno, le juif et la nature, ça fait deux. Hein, c'est un très très beau passage. Et effectivement, il ne se penche pas sur la nature avec des effusions, jamais. Il laisse tomber la nature. Il aime bien y aller, il aime bien aller en Bohème, en vacances, etc. Mais enfin, il n'en fait pas un objet de littérature. Et donc, quand il décrit les conditions dans lesquelles, par exemple, dans une carrière, c'était boulé, enfin des choses comme ça, dans ses rapports, il fait la démonstration qu'il aurait pu être aussi un écrivain de cette sorte, avec cette aptitude. Mais il était entre Landauer, qui était c'était le côté, disons, politique des choses. Mmh. Et puis,
Landauer qui était un théoricien anarchiste.
Oui, qui avait fait une conférence sur Hölderlin aussi, à laquelle il a tenu à aller. C'est tout à fait, il y a un rapport à Hölderlin qui est un écrivain très proche de lui à certains égards, parce que Hölderlin aussi s'est battu toute sa vie contre sa mère, qui l'a empêché de devenir écrivain, qui voulait qu'il soit, alors non pas père de famille, dans une famille comme il faut, mais qui l'a empêché de devenir pasteur, enfin de devenir écrivain, et qui voulait qu'il devienne pasteur, etc. Mmh. Et il y a une espèce de fraternité d'âme là, entre lui et Hölderlin, à laquelle fait écho son intérêt pour Landauer. Mais je pense que c'est aussi une des qualités qui sourd, S-O-U-R-D, de tout son travail d'écriture, de correspondance, de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, puisque finalement on n'a que des choses qu'il a écrites et assez peu des choses qu'il ait lui-même publiées. Ce qui sourd de tout cela, c'est un intérêt pour autrui, qui est de nature profondément morale. Qui peut constituer un frein, précisément, pour satisfaire à la demande des parents, mais aussi de ses sœurs, etc., pour ne pas être un trublion, mais voilà, quelqu'un qui joue le jeu, il accepte des choses qui font que effectivement il ne peut écrire que tard le soir. Quand il a fait la partie de cartes avec les parents, il se met à écrire, il est tard, il est déjà fatigué par sa journée, bonjour, il a été empêché physiquement, souvent, d'écrire.
Régis Quatre-Sous, on voit Kafka dans le livre vivre plusieurs vies. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs chapitres. Il y a le Kafka qui fréquente effectivement le théâtre yiddish, qui fréquente les bordels aussi, qui fréquente les bars, la vie littéraire aussi beaucoup. Il y a le Kafka qui fait partie qui observe les débats sur le sionisme et qui s'interroge dessus, qui s'interroge aussi sur les questions liées à l'assimilation, puisque le père de Kafka s'était révolté contre son milieu orthodoxe et lui se révolte contre une assimilation qui ne le satisfait pas. Et c'est tous ces éléments qu'il trouve, il me semble, dans sa rencontre. En fait, il trouve chez Felice Bauer une sorte d'interlocutrice incomplète d'une certaine manière, il semble.
Oui, tout à fait. Ben, ce qui est intéressant, c'est que leur rencontre se fait chez Max Brod, qui est le meilleur ami de Kafka et qui sera son exécuteur testamentaire, celui qu'on appelle parfois un traître. Ils se rencontrent donc chez ce Max Brod et le lien se noue autour d'un possible voyage en Palestine, c'est-à-dire que Kafka à ce moment-là a sur lui une revue consacrée au sionisme et à la Palestine, et comme ça un peu à la légère, les deux amis et Felice Bauer se serrent la main en disant on entreprendra bientôt un voyage vers la Palestine, ce qui évidemment n'aura jamais lieu.
Ce qui va se passer, c'est que la rencontre avec Felice Bauer va provoquer l'éruption littéraire, en fait. Yannick Hanel.
Oui, c'est tout à fait fascinant dans ce livre. On voit que le rapport que Kafka entretient avec une femme, en l'occurrence ici Felice, est à peu de choses près le même qu'il entretient avec l'écriture. Il assigne l'objet de son amour, si je puis dire, et l'objet de l'écriture à quelque chose de démesuré, une attente folle. C'est Dans la métamorphose, il y a justement un tout petit moment, une scène avec la sœur qui joue du violon dans la pièce d'à côté, et lui transformé en ce que la famille fait de lui, étrange
porte,
parasite, cloporte, rampe. Et il y a ce moment, enfin, de cette phrase de Kafka bouleversante où il dit que c'est le chemin qui conduit vers la nourriture inconnue. Ce chemin qui conduit vers la nourriture inconnue, inatteignable mais toujours désirable, c'est chez Kafka à la fois l'écriture et la tentative de trouver une femme qui accomplisse cette dépossession là. C'est très riche d'enseignements. Enfin, ça va se reproduire plusieurs fois de manière très différente dans la vie de Kafka, notamment avec Milena. Mm-hmm. Mais on a là, c'est tout à fait inouï, une coïncidence entre vraiment la tension vers le féminin et la tension vers l'écriture.
Alors c'est un certain type d'écriture, et on va finir là-dessus. Quelque chose dans l'écriture du verdict, de la métamorphose, du procès, échappe à la métaphore, échappe à pratiquement tout. Il y a une forme de on a l'impression qu'il transforme ses expériences. En fait, mais c'est des faits étranges, c'est des faits où c'est pas exactement de la fiction, c'est jamais de l'autobiographie. On est dans un domaine de traduction constante d'un plan à un autre, en quelque sorte. Il y a une anecdote qui est racontée dans le livre, où fin 1915, donc après la publication de la Métamorphose, celui qui deviendra son prof d'hébreu, Friedrich Tiberger, pardon pour la prononciation, raconte que son père lit la Métamorphose en présence de Kafka, qui sourit de façon distante, et puis après que le père ait donné son commentaire de la nouvelle, Kafka recule d'un pas et avec un sérieux effrayant, en secouant la tête, comme si l'histoire était vraiment, c'était vraiment produite, déclara, mais il faut dire que ça a été une horrible affaire. Il y a quelque chose de, on est dans c'est ça qu'il trouve vraiment au moment de cette explosion créatrice. C'est pas seulement des histoires étranges, c'est une façon d'écrire. Qu'est-ce qu'il veut, je sais pas qui veut répondre.
Oui,
Jean-Pierre Lefebvre.
Je me suis penché aussi sur sa façon de parler, parce qu'il n'y a aucun enregistrement. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir sous quel isoglosse il se trouvait, quel était le parler chez lui, avec quelle voix lisait-il des textes à ses sœurs, par exemple, puisqu'il faisait des effets de théâtre aussi. Et si vous avez la curiosité, je vous suggère de rechercher sur le net une interview de Max Brod. Mm-hmm. Max Brod, donc, qui a été, évidemment, il est mort en 67, donc il a été contemporain des enregistrements, etc. Bizarrement, d'ailleurs, Félix Sebauer, elle était fabricante de dictaphones. Hein, aussi, elle était dans l'enregistrement de la voix. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses se sont jouées chez Kafka aussi dans la voix. Il a écouté des récitateurs, comme on disait, qui lisaient des poèmes. J'ai essayé de trouver l'articulation entre cette voix extérieure dans laquelle il lisait des textes pour autrui, pour un public, et la voix intérieure dans laquelle il écrivait. Mmh. Et j'ai trouvé là, je pense avoir trouvé là, une espèce de piste pour comprendre un peu pourquoi il écrit à cette vitesse-là. Parce que c'est fabuleux, la vitesse à laquelle il écrit avec une plume à encre. Et la langue extérieure, les effets de voix, etc., c'est la langue, c'est l'accent vraiment méridional, un peu de franconien, assez proche de ce que font les comédiens autrichiens, avec des sonorités particulières, un R apical, richtig. Hein? Richtig. Là où un Allemand du Nord dirait richtig, etc. Lui, richtig, il fait vite. C'est-à-dire, c'est une langue animée par un corps.
Animée par un corps.
Et donc, à mon avis, quand il écrit, il est aussi dans le désir d'animer avec son corps. Les arabesques sont magnifiques. On fait des post-it. Enfin, on fait des des reproductions qui sont carrément des tableaux là, des pages qu'il a écrites.
Stark dit d'ailleurs que l'influence des comédiens yiddish, des mimiques et des attitudes se retrouve beaucoup dans la description des personnages, ce qu'on appelle les personnages kafkaïens dans pratiquement tous ses romans. On va finir l'émission.
Bah écoutez, est-ce que je vous arrête. Écoutez, ouais. Les chants yiddish actuels. Oui. Hein. Vous serez frappé par précisément la présence de cette voix, parce que dans le yiddish tel qu'il est parlé, il y a tout ce système consonantique, etc. Il est à l'œuvre, et il y a une espèce de parenté entre les deux langues qui est un facteur, disons, de d'efficacité.
On va finir cette émission sur vous, Zilberman. Vous m'avez dit juste avant de commencer l'émission que quand on lit le livre, on a le sentiment de voir le continent en fait se disperser à mesure que la vie de Kafka s'écoule en fait.
Oui, c'est ça. Enfin, par le biais que j'avais moi-même adopté pour cette émission sur les femmes de Franz Kafka, ce qui m'avait beaucoup frappé en réalisant ces quatre émissions, c'est que ce soit pour l'œuvre, enfin bon, dont on sait qu'elle a été à la dernière minute emportée par Broad le 15 mars 1939, qui croise, hein, franchement, en quittant la Tchécoslovaquie, qui croise les premiers soldats en train d'arriver en Bohême-Moravie, hein, puisque le 15 mars 1939, c'est l'occupation de la Bohême-Moravie par les nazis. Donc, il sauve ses œuvres, mais on parle là des œuvres de Kafka, mais que ce soit les lettres donc qui ont été emportées par Felice aux États-Unis, que ce soit ensuite les lettres de Milena qu'elle avait confiées à son ami Vilias, qui lui aussi les emmène in extremis en mars 1939 et qui sont sauvés in extremis, que ce soit aussi ces lettres qu'avait conservées Dora Diamant et qui ont été arrêtées, enfin qui ont été dans une arrestation de la Gestapo, envoyée en Union soviétique, puis rapatriée ensuite en Allemagne. Il y a une sorte de dispersion totale de toutes ces œuvres, de diaspora finalement, des œuvres écrites, qui fait un étrange miroir finalement avec l'œuvre même de Kafka. Leur matérialité est comme un écho étrange.
To see my hands were tied, and I know it must have hurt you. It must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
Ma chef, cette émission, merci Rudy Zilberman d'avoir autant de patience pour Leonard Cohen. Je rappelle le documentaire, le podcast de France Culture, Felice Milena Dora Otla, quatre femmes avec Kafka. Merci Jean-Pierre Lefebvre, traducteur et coordinateur des œuvres complètes chez Gallimard. Merci Régis Quatre-Sous. Je rappelle le livre Kafka, le temps des décisions, premier volume, aux éditions du Cherche Midi. Et merci Yannick Hennel d'avoir été là pour parler de Kafka avec nous. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Olivier Arnay et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.